Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Christine Huchette, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de coaching, bien entendu avec vous. Nous avons fait une série d'émissions autour de ce mot-là, autour de la formation, autour du coaching à la fois personnel et professionnel. Et aujourd'hui, vous allez nous parler, et c'est une belle expression, de l'art du coaching en externe. Alors, c'est quelque chose qui, évidemment, vous tient particulièrement à cœur, puisque c'est ce que vous pratiquez au quotidien.
Exactement, donc c'est ma mission, c'est mon activité. Donc je me définis donc comme coach en développement professionnel et personnel. Et je vais donc plutôt insister sur cette émission sur le coaching en développement personnel. Et j'ai apprécié que l'un de mes auteurs favoris parle de l'art du coaching, puisque, me disait-il d'ailleurs, nous parlions de l'art de la médecine il y a encore quelques temps. Mmh. Hein. Donc effectivement, être coach nécessite bien sûr d'avoir des bases, d'avoir des connaissances, d'être formé, mais nécessite aussi de s'impliquer totalement. Et la manière dont nous allons nous impliquer va représenter notre art, notre capacité à accompagner la personne dans son développement, dans sa recherche d'elle-même, d'aller regarder à l'intérieur d'elle ce qui la motive, ce qui donne du sens à sa vie, à son existence.
Peut-être est-ce qu'on peut continuer de s'arrêter sur ce mot « art » parce que ça implique de la finesse, mais aussi une créativité permanente, non ?
Tout à fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous devons, chaque fois que nous rencontrons quelqu'un et que nous travaillons avec cette personne, être à l'écoute de ce qu'elle va nous dire, sans préjuger de ce qu'elle pourrait nous dire, sans se dire que la réponse ou la recherche devrait s'orienter de telle ou telle manière. Donc il y a une certaine prise de risque en ce qui nous concerne, puisque nous ne pouvons pas savoir ce qui va se dire. Et nous ne devons surtout pas envisager ce qui va se dire. Donc, nous sommes dans une écoute totale, en étant tout à fait présents à ce que la personne est en train de nous partager. Et à partir de ce partage, eh bien, c'est aussi ce que je pourrais appeler de temps en temps le coaching heuristique, c'est-à-dire que nous allons faire preuve de créativité, de subtilité, pour lui renvoyer certains messages, avoir cet effet miroir ou avoir ce bon questionnement qui va lui permettre d'aller plus loin, plus profond dans ses réflexions.
Qu'est-ce que cela signifie, heuristique, Christine Huchette ?
Eh bien, l'heuristique, c'est lié à l'innovation, c'est lié à la créativité et c'est lié au hasard. Et donc, la science de l'heuristique, Arthur Koestler en a beaucoup parlé dans son livre sur le hasard. Et il explique que c'est cette capacité à observer les choses, à en tirer peut-être des enseignements et d'aller vérifier derrière que ces enseignements étaient les bons. Un exemple très facile d'heuristique, c'est dans le monde médical. On entend régulièrement des histoires sur les origines d'un vaccin, d'un médicament, que peut-être justement à l'origine on ne cherchait pas à guérir telle ou telle maladie, mais que le fait de pencher sur des recherches sur une maladie va vous amener à en guérir une autre, par l'effet de hasard. C'est-à-dire que Pasteur disait que le hasard, il fallait l'attendre, il fallait être prêt pour le recevoir.
Est-ce que ça signifie le provoquer ?
En tout cas, je ne sais pas s'il faut le provoquer, mais il faut toujours avoir en tête qu'il est là et qu'il va nous réserver des surprises. Je repense au côté médical, je n'ai peut-être pas été suffisamment précise, mais une expérience très forte était les bébés qui naissaient avec cette maladie de peau où la moitié du corps était rouge et la peau était granuleuse, enflée, enfin je ne me souviens plus le nom de cette maladie. Et en recherchant comment soigner cette maladie, on a découvert un médicament qui permettait de soigner les maladies cardiaques. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ça, l'utilisation du hasard, des effets de recherche. Alors en coaching, bien sûr, c'est pas tout à fait la même démarche, mais le coaching heuristique s'applique sur le fait que nous allons nous attendre à toute éventualité, à toute possibilité, et que nous n'avons pas d'idée préconçue sur ce que le coaché va nous apporter. Et donc, on va aussi faire appel à notre esprit. Vous parliez tout à l'heure de subtilité. Et là, je voudrais reprendre les mots de Pascal, hein, qui parlait d'esprit de géométrie, d'esprit de finesse. Et donc, peut-être que tout l'art du coaching, de l'accompagnement, eh bien, c'est peut-être de faire appel à notre esprit de géométrie et aussi à notre esprit de finesse et être suffisamment présent pour intervenir au bon moment.
Alors l'esprit de finesse, je pense comprendre à peu près. De géométrie, comment est-ce que cela s'applique?
L'esprit de géométrie réfère à nos connaissances quelque part, à notre bon sens, à notre capacité de raisonner. Donc à la fois raisonner sur ce que nous apporte la personne, sur les faits, sur les situations, sur les conséquences prévisibles de ces situations. Donc là, on serait plutôt dans un coaching macro. Et puis, on a aussi une personne en face de nous qui est, elle, unique. Et donc là, on rentrerait dans le coaching micro et on fait appel à ce moment-là à notre esprit de finesse. Quand je parlais de macro, je pensais aux théories, aux concepts, aux représentations, enfin tout ce qui alimente les livres et les théories et les modèles que l'on a sur le coaching, qu'on peut avoir sur d'autres théories des sciences humaines. Et quand je parlais micro, je voulais juste aborder le fait que nous sommes en face d'une personne qui est complètement différente de la personne qu'on aura reçue quelques heures auparavant et qui est complètement différente de la personne qu'on recevra quelques heures plus tard. Et que donc là, à ce moment-là, on conserve en tête les concepts, mais par contre, on va devoir les appliquer, ou en tout cas les utiliser, mais d'une manière subtile par rapport à la personne qui est en face de nous, par rapport à sa personnalité, par rapport à son identité, par rapport à ses aspirations.
Comment est-ce qu'un coach fait pour garder suffisamment de distance avec la personne qui l'accompagne? Comment fait-il pour ne pas se laisser submerger? Ça peut peut-être arriver parfois par ce qui est exprimé.
C'est tout l'art du coaching. Voilà. L'art, il est effectivement dans cette capacité à être complètement là, tout en étant en recul, tout en ayant pris de la hauteur. C'est-à-dire que nous utilisons donc l'empathie, c'est la capacité à comprendre et à vivre la difficulté de l'autre, mais tout en ayant cette capacité de ne pas se laisser submerger par l'émotion de l'autre, c'est-à-dire de rester avec cet esprit, à ce moment-là peut-être de géométrie, de comprendre la situation et de ne pas se laisser emporter par l'émotion de la situation. C'est quelque chose que l'on met en œuvre, qui est parfois difficile. Parfois, c'est tout à fait plus aisé de le faire. Alors, je m'explique. Quand est-ce que c'est vraiment difficile? Ça va être difficile quand la personne vous raconte des choses qui vous touchent ou qui vous ont touché plus personnellement. Donc, si elle vous parle de difficultés qu'elle a connues et qui vous renvoie vous-même à des difficultés que vous avez rencontrées ou à des souffrances que vous avez dû traverser, là, il est très difficile de ne pas penser à soi et de rester uniquement vers l'autre. Mais c'est là, vraiment, avec le temps, avec l'expérience, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire, et je pense que je le fais régulièrement. Sinon, de toute façon, nous ne pourrions pas garder cette relation de coach à coaché. Il faut savoir aussi que c'est pour cette raison qu'il ne faut pas coacher des membres de sa famille ou coacher des personnes que l'on connaît, puisque plus vous connaissez l'environnement de la personne, plus il est difficile de faire abstraction et de rester en position de hauteur, de recul. Donc il faut garder une certaine distance avec la personne, il ne faut pas vouloir devenir son ami, ou en tout cas il ne faut pas accepter que le coaché vous traite comme un ami. Il faut garder vraiment une distance, quelque chose de l'ordre même peut-être du mystère, enfin, c'est ce qu'on peut envisager. Et il faut aussi avoir un certain nombre de règles que l'on a établies. Et il faut partir du dernier principe que je vais évoquer, qui est que le coaching a un début et une fin, c'est-à-dire qu'on se voit pendant un certain temps, et ensuite il est normal que l'on ne se voit plus. Et donc, il n'y a pas de difficulté dans le futur, c'est-à-dire que ce qui a été dit pendant un process de coaching, pour la personne, c'est dit et c'est fini. Il n'y a pas de difficulté que ce soit remémoré d'une manière ou d'une autre, dans une rencontre familiale, etc.
J'allais justement, Christine, vous poser la question du temps par rapport au coaching. Est-ce que on peut délimiter une durée particulière pour avoir réussi à aller à l'objectif, ou est-ce que cette durée-là, elle dépend en fonction des situations et des personnes ?
Je pense que vous avez une petite idée de la réponse hein, dans votre question. Alors effectivement, on pourrait délimiter, et là c'est très compliqué puisque on ne connaît pas les évolutions des uns et des autres, on ne connaît pas les freins qui vont être mis, et puis il faut savoir que on peut avoir la perception d'avancer, le coaché peut avoir la perception d'avancer, et tout d'un coup retomber dans des situations dans lesquelles il se retrouve mal à l'aise. Ce n'est pas forcément linéaire, le développement personnel. Alors, ce qui peut se passer, c'est que la meilleure métaphore, je dirais, c'est l'ascension, l'alpinisme. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est notre Everest, hein, quand on veut retrouver qui nous sommes, qu'est-ce qu'on porte et qu'est-ce qui nous motive exactement, qu'est-ce qui va nous rendre heureux et qu'est-ce qui va donner du sens à notre vie. On peut franchement dire que c'est notre Everest. Eh bien, je n'ai jamais été alpiniste, mais je sais qu'il y a des camps de base quand on fait ce genre d'expédition, et qu'à chaque camp de base, on peut regarder ce qu'on a déjà fait, on peut être content de l'évolution que l'on a eue, et peut-être se satisfaire et en rester là. Mais on peut aussi, comme d'autres alpinistes, se dire « Non, moi je veux aller encore plus haut et je veux aller atteindre un autre camp de base ». Et donc à ce moment-là, dans ces moments un petit peu où on se repose, la personne peut vous demander d'aller plus loin et de repartir sur d'autres pistes, sur d'autres aventures où on pourrait s'arrêter là. Voilà. Donc si on devait mettre une durée, je dirais que je ne peux pas vous donner de durée en termes de nombre d'heures, mais je peux vous dire que voilà, on y va étape par étape et qu'à tout moment, un coaché va pouvoir s'arrêter. Bien sûr, il est de la responsabilité du coach de ne pas faire en sorte qu'il s'arrête pendant l'ascension, puisqu'il faut au moins qu'on atteigne un camp de base.
J'aurais envie d'ajouter qu'il y a après l'Everest, l'Annapurna, je ne sais pas quel autre sommet encore, mais ça c'est mon côté d'avoir envie de voir toujours plus loin.
Tout à fait, mais c'est possible. Moi je pense que vous pouvez y aller à condition que vous respectiez le repos et le fait de vous acclimater à chaque camp de base.
Je retiens bien cette notion de camp de base et puis nous allons certainement en trouver un autre lors de notre prochaine chronique. Je vous remercie en tout cas pour celle d'aujourd'hui, Christine, et puis par conséquent à très bientôt.
À très bientôt, Fabrice.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.